Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 20 septembre, vous êtes sur Sud Radio, vous êtes bien sur Sud Radio. Avec vous, on va commenter l'actualité entre 11h et midi et puis entre 10h et 11h, les médias. On aura avec nous l'excellent comédien Melville Poupeau qui viendra nous parler de son rôle dans la série Insoupçonnable qui est diffusée tous les jeudis soirs sur TF1. On aura également un débat autour de l'hygiène en cuisine. Ce soir, c'est Cauchemar en cuisine sur M6. Alors, est-ce que nos restaurants sont aussi dégoûtants, pour employer un mot poli, que ce qu'on peut voir dans certaines émissions de télé? Et puis, Gilles, Rémi, Rémi Pernelet sont là également.
Bonjour,
le zapping, nos pronostics. Bref, vous connaissez maintenant les rubriques. Allez, on va commencer avec les audiences, Rémi.
Sud Radio, le 10h midi. Les médias, découvrons les audiences.
Alors, les audiences, le carton.
Oui, le carton. Alors écoutez, hier, des audiences quand même assez faibles au global, Valérie. On ne peut pas parler de vrai carton. Mais enfin, le leader des audiences des primes hier, c'est encore Alex Hugo sur France 2, 3 907 000 téléspectateurs, 18,6% de part de marché. C'est leader, mais c'est 1,2 million de moins que la semaine dernière. Ils ont toujours 400 000 d'avance, téléspectateurs d'avance sur le deuxième programme des primes qui est Esprit Criminel sur TF1. Mais enfin, c'est assez faible pour les primes. Deuxième carton peut-être que je pourrais signaler, c'est celui de Quotidien sur TMC. Ouais. 1 465 000 téléspectateurs hier. C'est 500 000 téléspectateurs d'avance sur TPMP. Alors, c'était Benjamin Castaldi qui présentait, donc c'est toujours un peu plus bas. Mais enfin, c'est 200 000 de plus que la veille, donc c'est un très gros score.
Il y avait Ariane Chemin, la journaliste du Monde, qui a révélé l'affaire Benalla.
Exactement.
Voilà. Le Gadin.
Alors, le Gadin, écoutez, c'est encore pour la partie culturelle de l'info du vrai. Seulement 40 000 téléspectateurs hier. C'est vraiment encore un flop pour cette partie présentée par Isabelle Moreau, alors que Yves Calvi, dans l'info du vrai, fait 132 000 juste avant et 102 000 juste après. Donc, on a vraiment un creux. La séquence ne décolle vraiment pas.
Mmh. Et puis, la surprise?
Une bonne surprise pour C8 hier soir, qui diffusait le spectacle de la comique Blanche Gardin. 1 050 000 téléspectateurs, plus de 5% de part de marché. C'était la cinquième chaîne hier. C8 largement en tête des chaînes de la TNT et notamment devant Burger Quiz. Seulement 988 000 téléspectateurs hier. Les scores sont un peu moins bons pour Burger Quiz devant la rentrée. Et puis hier, c'est Blanche Gardin qui a bien marché.
Comme je l'avais dit hier.
Oh, Valérie, je savais.
D'ailleurs, petit débrief
de nos pronostics.
Débriefons.
On a tous gagné hier, puisqu'on avait pronostiqué collectivement Alex Hugo en tête, et puis Esprit Criminel en deuxième position. Ouais. C'est le cas. Je signale M6 arrive en troisième avec un très bon score pour le meilleur pâtissier, 2 765 000, 500 000 de plus que la semaine dernière. Et puis mention spéciale à Gilles. Gilles qui avait annoncé un bon score pour Blanche Gardin sur C8.
Faut dire qu'elle a un talent rare et que c'est un humour très décalé, très pincant.
Et que ça ne vous a pas échappé. Gilles.
Exactement, Blanche Gardin, j'aime beaucoup.
Alors peut-être un point sur les heures de début des programmes. Hier, TF1 a commencé 21h10, son prime. Oui. France 2, 21h09. France 3, 21h07. M6, 21h09. C8, 21h14. Donc même sans Cyril Hanouna, ça déborde. Et puis TMC, 21h17. Donc c'est toujours largement en retard par rapport au programme annoncé, on le dit depuis depuis la rentrée.
Oui, et il y en a qui démarrent à l'heure quand même dans tout ça, normalement. Oui, il y a France 5 qui respecte à peu près les horaires.
Horaires, exactement.
Canal Plus. Obtenu par des obligations légales de coder. Bon, on fera les bons élèves aussi. Là, on fait les mauvais, mais on fera les bons élèves, Rémi.
C'est une bonne idée.
0826 300 300, si vous voulez.
Je crois que Canal J démarre à l'heure.
Et on va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Alors, le zapping.
Alors, Valérie, après Jean-Pia, qui évidemment a ému le départ de Jean-Pia à la toile, c'est autour de Sophie d'avant, évidemment.
Elle n'est pas morte, Sophie d'avant, qu'est-ce que vous racontez?
Mais sa petite chienne Didgette est morte et elle
morte,
a du mal,
morte, morte,
elle, elle a du mal à s'en remettre. Et hier, dans Affaire conclue, elle a enregistré, parce que Affaire conclue est enregistrée bien avant, et donc elle a enregistré un magnéto spécial qui a été diffusé hier sur France 2, une séquence pour avertir les téléspectateurs.
Depuis plusieurs jours, je reçois vos témoignages de soutien. Vous le savez, ma petite Didgette nous a quittés il y a quelques jours. Vous la voyez encore à l'antenne, c'est normal, parce que nous avons enregistré des émissions en avance. Didgette a partagé tous les moments de ma vie depuis 10 ans. Elle est partie brutalement, c'était pas prévu, elle était en pleine santé, puis elle a eu une embolie pulmonaire. Je voulais juste vous dire que ne vous étonnez pas si vous continuez à voir Didjet sur nos plateaux pendant encore quelques semaines, ça correspond à toutes les émissions que nous avons enregistrées. Et puis je tenais à vous embrasser pour tous vos messages.
Oui, oui, téléspectateurs de France 2, au cas où vous voyez Didjet, surtout on vous a prévenu, ce n'est pas une hallucination, elle n'est pas ressuscitée. C'était bien.
Vous êtes sans cœur, vous êtes sans cœur, c'est terrible la disparition d'un animal.
Non, mais oui, au cas où les téléspectateurs de France 2 se diraient, mais tiens...
Non, mais il y a beaucoup de gens qui sont très attachés à leurs animaux. Il faut savoir que quand même, une disparition d'un animal, ça touche énormément.
Vraiment,
il faut...
Ah, mais c'est autre chose.
Oui, mais vous êtes un professionnel des médias, donc vous ne savez pas que les gens qui regardent la télévision ne savent pas forcément que les émissions sont enregistrées à l'avance. Donc on annonce, mais non, pas toujours.
Et puis vous êtes un peu sans cœur, c'est vrai.
Voilà, vous êtes sans cœur, voilà. Allez.
Alors, dans Quotidien sur TMC, qui a donc cartonné, comme vous l'a dit Rémi, c'est normal, il y avait aussi des petits sujets savoureux. Par exemple, quand Alexandre Benalla indique à la commission du Sénat qu'il est actuellement sans travail et qu'il est à Pôle emploi, les équipes de Quotidien ont fait un lien malicieux avec une autre déclaration.
Votre activité professionnelle actuelle ?
Le Pôle emploi.
Je traverse la rue, je vous en trouve, il veut simplement des gens qui sont prêts à travailler. Il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens.
Ouais. C'était plutôt bien vu.
Je veux dire que tout le monde avait fait le rapprochement.
Et plutôt malin. Ouais. Toujours dans Quotidien, évidemment l'équipe de Quotidien ne s'est pas arrêtée là. Vous allez voir qu'Alexandre Benalla a bien appris sa leçon. Et vous allez voir de la part de qui.
Et en même temps.
En même temps.
En même temps.
Et en même temps.
En même temps.
J'avais un agenda qui n'était pas... In fine, j'ai pas participé à beaucoup de réunions.
In fine.
Mais in fine.
In fine.
En termes d'organisation, et en termes pratico-pratiques.
Très pratico-pratique, et pardon là aussi d'être très pratico-pratique.
Ah bah oui, écoutez, on a le langage de celui qu'on écoute, c'était plutôt super
ouais,
bien
ouais,
vu
mais
aussi.
Ils sont plutôt très bons, hein, ouais. Ils font une bonne rentrée quotidien.
Ah oui, absolument. Voilà. Ouais.
Ensuite, on passe à...
Ah bah ensuite, on est jeudi, donc hier on était mercredi.
Oui. Et mercredi, déjà jusque-là, on est d'accord.
Mais bien sûr. Et donc le mercredi, il se passe quoi ? Ben, il se passe Burger Quiz, moi, c'est ma petite Madeleine. Alors, Burger Quiz, on va commencer par une petite question rigolote.
Vrai ou faux ? Suite aux récentes affaires de harcèlement sexuel, le gros de la troupe du Tour de France va cesser de s'appeler le peloton.
Voilà, c'était une petite mise en bouche. Et puis voici une autre question à propos de chin-chin au Japon. Vous savez, chin-chin, entre deux verres, vous allez voir.
Pourquoi ne faut-il pas dire chin-chin quand on trinque au Japon ?
Parce que ça veut dire autre chose.
Parce que ça veut dire autre chose. Parce que ça veut dire quoi ?
Je sais pas, pute ou... Chuchou, s'il te plaît.
C'est un mot. C'est le même mot, hein.
Ah non. Deux fois... Attends. Deux fois le même mot.
Oui.
Et donc, ce serait pas bien quand on dit deux fois le même mot.
Voilà.
Caca.
Mais on est...
Ah oui, caca ou pipi.
C'était ce chin en japonais veut dire bit. Voilà.
Ah, bit.
Donc voilà, dites plutôt kampai, c'est plus poli.
Mais on a quand même gagné le.
Vous avez gagné toute mon estime et c'est un menu politesse.
Oui, donc évidemment.
Vraiment. Mais c'est pas vraiment politesse, quoi. C'est genre.
Faut connaître le mot bit en japonais, quoi. Déjà.
Voilà. Je suis content, moi, parce que du coup, ça m'a donné du vocabulaire. Ouais. Au cas où j'irai
au
Japon.
Au
oui, Kampai, c'est ça.
Vous oui, Kampai, oui, bien sûr, je parle de Kampai, ouais. S'il vous plaît, Rémi. Et puis, pour finir, TF1 qui a fait un reportage qui était assez fort sur le déclin du pouvoir d'achat chez les personnes âgées. C'était assez étonnant, c'était dans le journal de Jean-Pierre Pernaut. Ils ont été sur un marché et vous allez voir ce que ça donne.
1,5 million de Français, 11% des plus de 50 ans, n'ont ni emploi, ni retraite et un tiers d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté. Valentin Després, Marine Brossard.
Sur le marché de Gournay-sur-Marne ce matin, s'il y en a qui ont observé une baisse de leur pouvoir d'achat ces derniers mois, ce sont bien les plus de 50 ans.
100 € chacun de moins, quand même. Et on a des enfants à charge. On boucle les fins de mois parce qu'on fait des acrobaties, mais bon, c'est un peu compliqué.
Vis-à-vis de la CSG, ça me fait quand même dans les 50 à 60 euros par mois en moins. Hein. Alors c'est quand même important.
Pension de retraite moins élevée ou faible revenu, il faut parfois se restreindre.
Une chose que je n'achète plus, j'achète le nécessaire ou l'indispensable et puis le reste, je m'en passe.
C'est triste hein, quand même.
Ah oui,
c'était...
C'est...
C'est un sujet assez fort dans le journal des trésors de Jean-Pierre Pernaut. Voilà, madame.
Alors, Rémi, vous vous êtes intéressé aux médias. Le média s'était lancé donc par des gens plus ou moins issus de la France insoumise, bien que la France insoumise se soit défendue cela. Et il se passe des choses qui n'étaient pas, pas prévues.
Il y a de quoi quand même commencer à faire un billet d'humeur à ce sujet. Effectivement, hier, une information est tombée. On a appris que Sophia Chikirou a signé la société Le Média et lui demandait 120 000 euros pour dommages et intérêts et travail non payé. Sophia Chikirou, Le Média, ça vous dit peut-être pas grand-chose, je vais vous rafraîchir quand même la mémoire. Le Média, donc on en parlait, a été lancé le 15 janvier dernier, mais tout le monde en avait parlé à l'été 2017, suite aux attaques violentes de la France insoumise lors d'une conférence d'été intitulée « Faut-il dégager les médias ?» animée cette conférence par Sophia Chikirou, justement, vous voyez, la conseillère en communication de Jean-Luc Mélenchon. Dans cette conférence, on affirme la nécessité de casser le monopole audiovisuel pro-système via la création d'un grand média audiovisuel alter-système qui soit altermondialiste, pluraliste, humaniste, antiraciste, féministe. Ce média créé par notamment Gérard Miller, qui était dans l'équipe dirigeante, pas que, mais malgré tout, on allait voir ce qu'on allait voir, ça allait tout changer. Nous sommes le nouveau média indépendant dont tout le monde parle, disait-il, au moment du lancement. Neuf mois plus tard, on a au bout de 6 semaines déjà, la rédactrice en chef, Aude Rossigneux, qui présentait également le JT de 20h. Enfin bon, c'est un bien grand nom, le JT, pour un rendez-vous quotidien un peu amateur et énormément partisan, était débarquée pour cause de management inadapté et de période d'essai non concluante, lui a-t-on dit. Bon, la dite Aude Rossigneux, de son côté, a dénoncé l'équipe dirigeante assez fortement, en disant « Toute cette histoire montre que j'ai eu un tort, vouloir à tout prix rester journaliste, là on attendait de moi que je sois militante. » La même semaine, on apprend qu'un sujet traitant du conflit en Syrie a été diffusé sans la moindre image des combats entre le régime de Bachar el-Assad et les rebelles, mais pas du tout par erreur, c'est volontairement parce que le journaliste a choisi de ne montrer aucune image. Nous ne sommes pas là pour faire du sensationnalisme, mais de l'information.
Ouais.
Alors là, il y a
drôle de conception de l'information.
Double tollé général suite à ces annonces. Plusieurs personnalités annoncent leur prise de distance. D'ailleurs, à l'époque, dans un texte publié dans Le Monde, quelques noms, Aurélie Filippetti, Gérard Mordillat, Patrick Peloux, François Morel, Judith Chemla, la comédienne Josiane Balasco. Ouais.
Il ne reste plus grand monde.
En mars, deux autres journalistes quittent encore Le Média pour les mêmes raisons. En avril, Le Média reprend un faux témoignage, je vous rappelle, celui d'une étudiante de Tolbiac qui relate l'existence d'un blessé grave, sauf que c'est faux, et que l'étudiante en question avoue son message un peu plus tard. Bon, la fake news fait beaucoup de bruit, d'autant que Gérard Miller, à l'époque, justifie la publication en disant « Lorsqu'on prend le risque de tendre son micro à des gens traumatisés, on prend le risque du faux témoignage et on vérifie après. » Oui, c'est une nouvelle conception du journalisme. On imagine comment Gérard Miller l'aurait apprécié si un média classique s'en était servi. Et puis en juillet, on apprend le départ de la présidente et directrice de la publication du média, Sophia Chikirou, qui rejoint la France Insoumise au poste de chargée de communication. En août, Mediapart révèle que la même Sophia Chikirou s'est fait rémunérer par l'intermédiaire de sa société pas moins de 64 000 euros une fois et 67 000, donc une paille pour 6 mois d'antenne. Et donc hier, on vient d'apprendre que Sophia Chikirou, elle attaquait à son tour la société Le Média pour lui réclamer 120 000 euros.
Désintéressé.
Tout à fait désintéressé. Alors en retour, parce que c'est vraiment tordu comme histoire, Gérard Miller et les autres dirigeants du Média accusent aussi Sophia Chikirou de détournement financier en ayant facturé aux médias dont elle était présidente des sommes à régler à sa propre société de conseil éditorial.
C'est pas joli tout ça, Rémi.
Écoutez, si on ajoute à ce tableau accablant les faibles audiences du site, environ 10 000 en février, et en juin, 3 fois moins d'abonnés que la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon tout seul. On mesure le fiasco de l'opération. En moins d'un an, le grand projet révolutionnaire de médias alternatifs a fait pchit, il a cumulé les casseroles et démontré que grandes déclarations ou pas, journalisme et militantisme ont quand même rarement fait bon ménage.
Pas bon ménage.
À part que quand même ils ont crié, je suis d'accord avec vous sur votre papier, sur tous les toits, que
on allait voir
que ça serait gratuit, que l'argent ça les intéressait pas, que c'était le propos évidemment, que le fric les intéresse.
Halte aux médias dépendant tous du grand capital.
Voilà, et de l'argent.
Allez. On se retrouve dans un instant, on va parler de cauchemars en cuisine et dans nos restaurants. Et puis également Melville Poupeau, le comédien que vous retrouverez ce soir sur TF1 dans la série Insoupçonnable. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi. Restez avec nous.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour dans le studio de Sud Radio avec vous. Et oui, c'est la bonne humeur sur Sud Radio ce matin, entre 10h et 11h avec Gilles Ganzmann, Rémi Pernelet. Et nous a rejoint Alain Fontaine. Bonjour, vous êtes chef du bistrot traditionnel Le Mesturet à Paris, dans le 2e arrondissement. Vous êtes patron de la commission des maîtres restaurateurs de l'organisation professionnelle Synorca. On a en ligne avec nous Séverine Canon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultante et formatrice en hygiène et sécurité sanitaire dans la restauration, parce que nous allons parler d'hygiène, de l'hygiène de nos restaurants. Sont-ils aussi sales, dégoûtants, mal entretenus que ce qu'on peut voir dans les émissions de Christian Etchebest, Cauchemar
Philippe,
en cuisine,
Philippe Etchebest,
qui sera diffusé ce soir, comme tous les jeudis soirs, sur M6. C'est vrai qu'on a eu envie de savoir si on pouvait avoir confiance en nos restaurants.
Ben oui, juste quelques exemples pour amorcer la discussion du pire de ce qui est passé dans Cauchemar et cuisine. Donc ça a existé, hein. Alors ben, il y avait, je vais pas citer les restaurants, mais des restaurants qui avaient un réel problème d'hygiène. De point, poisson pourri, pigeon mort dans la réserve, client intoxiqué par la nourriture. Ça c'est déjà. Après on voit des scènes que Philippe Etchebest nous montre avec des cuisines qui sont absolument déplorables, avec de la moisissure, des risques de panne électrique, et généralement à chaque fois qu'il ouvre les congélos,
des vieilles sauces,
il y a plein de trucs dégueulasses et qui sont servis en cuisine. Donc ça nous a inquiétés quand même beaucoup.
Oui, de savoir ce qui se passait. Est-ce qu'on peut faire confiance à nos restaurants, ou est-ce qu'il y a une face cachée, obscure, dans tous les restaurants de France ?
Non, pas du tout. On peut faire confiance à des restaurants, mais pas à tous, tout simplement parce que notre métier est ouvert à tous les vents. Quand je veux dire cela, c'est que nous avons une partie de la restauration de plus en plus infime, des gens qui sont non formés, qui ont touché de l'argent, héritage, prime de licenciement ou autre, et qui, parce qu'ils font bien la cuisine chez eux, se disent « je vais ouvrir un restaurant ». Sauf qu'ouvrir un restaurant, c'est un vrai métier, c'est un métier de formation, avec des CAP, des diplômes, et dans ces diplômes, vous apprenez l'hygiène en cuisine.
Mais excusez-moi Alain Fontaine, dans les personnes qui sont montrées,
sont des vrais restaurateurs.
Il y en a qui ont suivi, non mais pas tous, mais il y en a qui ont tout à fait suivi des diplômes. On le voit, les chefs ont suivi des formations. Hein. La formation, c'est pas une garantie quand même.
Très peu quand même. Bon, très peu quand même, parce que je regarde de temps en temps quand j'arrive tard. Elle est retransmise cette émission. Je regarde de temps en temps. On n'est pas face à des professionnels. Or nous, c'est un problème. Alors la sécurité pour les consommateurs,
enfin, le client ne sait pas s'il y a un professionnel ou pas derrière.
Comment peut-on savoir ça?
Alors vous avez
Vous avez des labellisations. Bon, vous m'avez invité pour ça, parce que maître restaurateur, on est 4000 en France et on est certifié. On est certifié par des gens comme Aftor, Veritas et Certipac. C'est-à-dire qu'on est, un label d'État. On est le seul label d'État. Donc, par exemple, nous, on est obligé d'être diplômé et obligé d'être surveillé, et on remet notre titre tous les 4 ans. Donc, vous avez comme ça des labels, mais celui-là est important, c'est un label d'État, qui effectivement rassure le consommateur. Par contre, par rapport à ce que vous venez de dire, on sait très bien que dans la restauration, il y a des gens qui circulent, qui ne sont pas des professionnels. Or, l'hygiène est quasiment une nature de la si vous pouvez pas être bon cuisinier si vous êtes pas au point au niveau de l'hygiène. Il y a des examens tous les 2 ans. C'est la première chose à faire, c'est HACCP. Je pense que votre interlocutrice va en parler. On doit surveiller tout cela de très très près.
Mais est-ce qu'il y a assez de contrôle, justement? Moi, je suis pas. J'ai eu des échos, moi, de restaurateurs qui avaient racheté des restaurants, qui sont arrivés dans des grands restaurants et qui sont tombés sur des congélateurs, mais dégueulasses. Il y a pas d'autre mot. Ils m'ont raconté des crevettes incrustées dans le truc, de la crasse, des choses qui n'avaient pas été nettoyées. Donc, est-ce qu'il y a pas un problème de contrôle aussi?
Alors.
Est-ce que vous êtes suffisamment contrôlé ?
On est suffisamment contrôlé. Il y a des restaurants, par exemple, qui sont contrôlés 2 à 3 fois par an, parce que vous avez des mises en demeure. La DGCCRF met quand même des étapes avant de fermer un restaurant. Quoique
la Direction Générale de la Consommation et de la Répression des Fraudes.
Mais il n'en demeure pas moins qu'on trouve effectivement des choses qui sont des fois hallucinantes. Mais quand même, c'est une minorité, il faut le préciser. On est 78 000 restaurants place assise, on est 152 000 points de vente en France, 78 000 restaurants place assise. On sait très bien que là-dessus, et c'est ceux-là qui sont mis en avant dans les médias, il y a des gens qui font très mal leur travail et qui font prendre des risques, bien sûr, aux consommateurs. Donc, il faut une labellisation. Le fait maison en est une, mais peut-être pas encore assez. Il faut, effectivement, et ça vous avez raison de le dire, il faut savoir s'il y a un pilote dans l'avion.
Ouais.
Ça, alors, c'est très clair.
Séverine Canon, donc vous êtes consultante et formatrice en hygiène et sécurité sanitaire. Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain ?
Alors, moi, je voulais rebondir par rapport à ce que disait monsieur. C'est effectivement, il y a des contrôles par la répression des fraudes. Ils sont peut-être pas nombreux, j'en sais rien, mais on peut aussi, le restaurateur peut aussi faire des audits. Il peut s'inscrire, soit les faire lui-même et constater, parce que c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, on n'a pas forcément le temps de voir tous les problèmes. Et ben oui, qu'effectivement, il y a des crevettes incrustées au fond du frigo. Et donc de réaliser des audits,
si vous êtes malhonnête, si vous êtes très peu vigilant sur la, vous n'allez pas demander un audit pour qu'on vienne vous dire que vous faites pas de votre boulot.
Non. Oui, bah après c'est ce qu'on souhaite avoir auprès des clients. Si on veut être que le client satisfait de ce qu'on vend pour le client, il faut aussi se mettre un peu en risque pour dire bon ben voilà, effectivement je veux m'améliorer, je veux avoir plus de clients, parce que c'est l'hygiène, ça quand même c'est corrélateur. Si on a
c'est ce que disait Alain Fontaine, c'est très lié.
Moi j'ai une question concrète, Alain. Je vais dans le restaurant, vous avez fait un poulet, je vous commande une autre table, commande un poulet, c'est la même poêle?
D'abord, sûrement pas.
Vous changez de poêle à chaque personne.
On change de poêle. Moi, par exemple, je fais des frites.
Pas trop cuire le poulet.
Oui, la poêle, c'est rare, mais bon, ça peut arriver. Non, non, mais on peut le faire.
Ça peut arriver.
Attendez, une escalope de poulet. Non. Attendez, un super poulet, on peut le faire à la poêle. Mais par contre, par exemple, les frites, moi, j'en fais qu'une fois par semaine. Mais je change ma friteuse tous les lundis. J'en fais des frites le lundi. Et je change mon huile de friteuse chaque lundi. C'est-à-dire, je fais pas deux bains. Mais bon, après, vous pouvez aller jusqu'à deux ou trois bains. Mais une chose qu'a dit madame, et c'est vrai, parce que je le fais dans mon restaurant, mais je suis pas le seul. Mais par exemple, je suis contrôlé par un laboratoire qui vient 3-4 fois par an, qui vient faire des prélèvements, qui me donne les retours, et la DGCCRF apprécie cela. Mais quand j'appelle un laboratoire pour faire cela, eh bien je l'affiche sur ma vitrine. C'est ce que je parlais de la labellisation. Et faire un bon hygiène dans un restaurant, moi dans le mien, je vais vous dire franchement, ça me coûte 2000 euros par an. Alors 2000 euros pour faire de l'hygiène.
On va y revenir, 0826 300 300, si vous voulez y revenir, si vous avez rencontré vous un cauchemar en cuisine en allant au restaurant, appelez-nous sur Sud Radio, 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. Dans un instant, nous serons en compagnie de Melville Poupeau pour parler de la série qui cartonne sur TF1, Insoupçonnable. Mais nous revenons sur l'hygiène des restaurants. L'hygiène en question à chaque fois, pratiquement toutes les semaines, dans Cauchemar en cuisine, qui est diffusée tous les jeudis soirs sur TF1. Donc, pour en parler, Alain Fontaine, chef du bistrot...
Sur
M6. C'est Melville Poupeau qui est sur TF1.
Oui. Alain Fontaine, chef du bistrot Le Mesturet, dans le 2e arrondissement à Paris, patron de la commission des maîtres restaurateurs de l'organisation professionnelle Synorca. Et puis on a Séverine Canon, consultante et formatrice en hygiène et sécurité alimentaire dans la restauration. En préparant l'émission, je suis tombée sur le site Alim Confiance. Alors je découvre cette application qui a été lancée par le ministère de l'Agriculture, qui permet de noter ce sont les restaurateurs qui s'inscrivent et qui peuvent afficher leur note, la note que leur a donnée l'inspection, c'est pas ça?
C'est sur le fond, c'est ça. D'abord, Alim Confiance, ça vient effectivement de quelque chose qui existe déjà aux États-Unis.
C'est d'afficher les résultats des contrôles.
C'était aux États-Unis, ils l'affichent, c'est une vitrophonie. C'est une vitrophonie.
C'est-à-dire ?
Donc, c'est-à-dire que c'est
obligé
affiché.
De mettre en vitrine.
Et vous avez un smile dans un sens, dans un autre, moyen, bien ou pas bien du tout. Nous, les syndicats, on a demandé que ça soit uniquement par une application qui s'appelle Alim Confiance. Et en fin de compte, quand la DGCCRF passe dans votre restaurant, elle va, dans votre établissement, elle va noter cela et ça va tout de suite être produit par Alim Confiance. Contrairement à ce que une démarche volontaire des restaurateurs.
Je suis tombée sur un article qui dit à peine 13 500 établissements de restauration sont inscrits sur les 177 000 que compte la France.
Oui, parce que c'est les visites qui ont été faites.
C'est lamentable qu'il y ait 13 000 visites sur 177 000. DGCCRF qui sont passées nombreuses.
Alim Confiance n'a commencé que l'année dernière et donc on avance doucement. Mais ils ont prévu, la DGCCRF a prévu qu'à peu près dans les années qui viennent, dans les deux ans qui viennent, tous les restaurateurs, c'est-à-dire les 78 000 restaurants de France et d'autres, les points de vente de restauration, seront effectivement inscrits sur Alim Confiance. C'est quelque chose qui va être mis en place au fil du temps. On ne peut pas demander aux agents de la protection des populations d'intervenir. Ils auraient trop de choses. On est beaucoup. Rien qu'à Paris, il y a 15 000 restaurants. Vous vous rendez compte?
Mais ce qui est fou, c'est qu'il n'y ait pas même de publicité, entre guillemets, qui soit faite de la part du gouvernement sur ce... Moi, j'ignorais totalement ce site, ouais, à une conférence. Si c'était plus répandu, que les restaurateurs savent qu'on peut aller sur ce site et qu'on voit la qualité, l'hygiène d'un restaurant, ça leur met la pression quand même.
Oui, mais il y a eu une volonté aussi de la part de gouvernement, enfin de l'administration, de mettre la chose en place et de prévenir. Et de dire, attention, maintenant ça va être en place. Si vous ne voulez pas être affiché à la vue de tout le monde, mettez-vous en place. Je pense que tous les restaurateurs savent que Alim Confiance existe. Ouais. Et donc tous les restaurateurs vont essayer de se mettre en place au fil des années.
Alors, dans l'émission de Philippe Etchebest, on voit aussi souvent dans les frigos qu'il y a beaucoup de surgelés, qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas
cuisinées.
Pas cuisinées.
Enfin, prêtes, toutes prêtes.
Est-ce que moi, je peux ouvrir un restaurant et acheter du surgelé chez Picard, pour ne pas le nommer, et faire les petites tartelettes et dire que je les ai faites?
Malheureusement, oui. Malheureusement, oui, c'est notre problème dans la restauration. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est ouvert à tous les vents. Et quelqu'un qui fait de la cuisine chez lui et puis qui se dit, tiens, je vais ouvrir un restaurant, peut le faire. Alors, il n'aura pas le droit d'être maître restaurateur, il n'aura pas le droit de marquer fait maison, mais peu lui importe. L'important, lui, c'est la profitabilité. Notre problème est qu'on a deux populations dans la restauration. Vous avez les passionnés de la restauration et qui vont faire très attention à leurs clients parce qu'ils ont l'amour du client. Et puis, vous avez des gens qui vont dans la restauration pour gagner de l'argent. Ceux-là sont extrêmement dangereux pour notre métier d'artisan. Les maîtres restaurateurs sont avant tout des artisans. Et donc, effectivement, vous avez le droit de l'ouvrir. Je n'irai pas manger chez vous. Hein. Maintenant, je vous ai reconnu.
Mais ce fameux label fait maison, il y a eu beaucoup de pubs là-dessus.
Je le vois nulle part.
J'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose. Je le vois. Même en le voyant, on se dit, alors, apparemment, il y a certains plats qui peuvent être indiqués fait maison, pas tous. C'est quand même compliqué comme idée.
C'est une idée qui a été compliquée et qui le reste compliquée. Alors, pour deux choses d'abord, parce qu'il y avait beaucoup de restaurateurs qui faisaient tout maison et qui se sont dit, bah maintenant, je vais l'afficher, mais qui vont l'afficher sur l'ardoise, parce que vous avez un panneau son très précis, qui est une marmite avec un petit toit dessus, qui est un panneau de l'administration, issu de l'administration française. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a plein de gens qui ont marqué maintenant fait maison. Mais effectivement, le fait de marquer de la moitié de la carte ou pas la moitié de la carte, fait maison, pas maison, on va transformer, et ça, il faut faire attention, on va transformer nos cartes de restaurant en ordonnance médicale, si vous voulez. Et ça va, la carte du restaurant, c'est le premier pas vers le romantisme d'un restaurant. Donc, attention, le fait maison devrait effectivement s'appliquer, et vous avez raison de préciser, à tous les plats.
S'il y avait eu beaucoup de pubs, et puis on n'en a pas vu, beaucoup sur les...
C'est un coup d'épée dans l'eau, ça n'a pas rempli son rôle.
Séverine Canon, quelle est la réaction des restaurateurs que vous allez former? Est-ce qu'ils ont conscience de l'importance de l'hygiène?
Oh oui, ils ont beaucoup, hein. Ils ont beaucoup l'importance de ce point, parce qu'ils sont quand même conscients que c'est le client qui eux-mêmes ne veulent pas manger dans des restaurants où c'est juste pour faire du bénéfice. Donc non, ils en sont conscients. C'est ça.
Vous avez rencontré des cas un petit peu extrêmes, vous, dans vos formations?
J'en ai peut-être vu un où effectivement ils cherchaient toujours la petite bête pour éviter de faire quelque chose. Par exemple, quand il fallait faire le contrôle des températures en disant oui mais non, pourquoi on fait ci, moi j'aimerais faire plutôt comme ça parce que c'est moins contraignant pour moi. J'ai pas forcément le temps. Comme on peut voir aussi, bon, moi j'ai jamais tué personne pour l'instant, mais bon, c'est ce que je leur dis. Vous savez, la personne qui a été malade, il va pas revenir chez vous et vous évitera. Donc voilà.
Merci Séverine Canon. C'est vrai qu'il n'y a pas que les petits bouis-bouis ou les petits restaurants qui payent pas de mine dont il faut se méfier. Il y a eu des grands restaurants fermés à Londres, de chefs étoilés, pour des questions d'hygiène également.
Il y a un moment donné où effectivement on ne fait pas du tout attention à ce qu'on fait, et vous pouvez avoir des chefs qui sont complètement dans la créativité et qui peuvent oublier en amont qu'il y a de l'hygiène. Et la prise des températures, par exemple, est une chose importante. Il faut donner du temps à l'hygiène. Et ça, si vous êtes passionné, si vous faites bien votre travail, vous donnez du temps à l'hygiène. La semaine dernière, toute ma cuisine a fait HACCP, c'est tous les deux ans.
C'est quoi HACCP?
HACCP, c'est un nom barbare anglais, mais on va le traduire en français. C'est en fin de compte le contrôle de tout le process pour arriver à la finalité. D'accord. De la traçabilité à l'assiette. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, nous avons des ordinateurs en cuisine pour la traçabilité, la photo de l'étiquette. Nous avons sur les ordinateurs la possibilité de prendre les températures. Aujourd'hui, le monde moderne est à la disposition de la restauration. Si on ne prend pas le train en marche, effectivement, on va avoir des problèmes comme ça. Et l'émission de Philippe Elsebèche, qui est bien sûr scénarisée, mais bien entendu, il y aura des restaurants où on continuera à avoir des cochons un peu partout.
Alors, ce soir, il sera à Tarbes, dans un restaurant qui s'appelle le Grill Place Marcadieu, un restaurant qui est en difficulté économique. Donc, c'est autre problématique.
Ça va de pair souvent.
Merci beaucoup, Alain Fontaine, d'être venu ce matin sur Sud Radio. Et merci à Séverine Canon. On se retrouve dans un instant avec Melville Poupeau. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Et on passe à l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Melville Poupeau.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
Bonjour Melville Poupeau.
Bonjour.
Formidable comédien, vous jouez dans Insoupçonnable ce soir. On peut vous retrouver, ça a commencé la semaine dernière, un rôle de serial killer. On a un petit peu peur quand vous rentrez dans le studio, puisque vous êtes effectivement insoupçonnable. Vous êtes un formidable père de famille, psychologue très sympa, en empathie le jour. Mais la nuit, vous vous transformez en redoutable serial killer. Et c'est vrai que vous faites peur.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est un compliment, mais c'est drôle.
Le problème, c'est quand vous êtes rentré, on a eu peur. Donc c'est peut-être un problème.
C'est pour ça que plus personne ne m'adresse la parole depuis une semaine.
Alors, il y a dans cette émission, quand on commence l'instant Google, c'est-à-dire que je googlise votre nom. Donc en général, quand je googlise un nom, je commence par le prénom et ça me donne toute une flopée de noms de famille avant d'arriver à mon invité. Vous, quand on tape Melville, on arrive tout de suite à Poupeau.
Oui, c'est vrai. Il y a quelques jeunes enfants qui s'appellent Melville, mais sinon, oui, c'est vrai.
Ouais. Et alors après, il y a tout ce que sur Google, tout ce que les gens recherchent sur vous.
Ah oui.
Alors en général, il y a. Taille, nu, vous, non, il y a femme, couple, compagne 2018.
Donc, il y a quand même, c'est ciblé.
C'est ciblé. Hein, donc
c'est mon rôle, un bon père de famille, insoupçonnable.
Et insoupçonnable, évidemment, puisque les gens, donc certains vous ont peut-être découvert parce que vous étiez plutôt connu au cinéma, dans des rôles plutôt.
Même si j'ai commencé le cinéma quand j'étais enfant, ça fait 35 ans que je fais l'acteur. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai fait des films...
Mais vous étiez dans des rôles, Raoul Ruiz, Romer, Doyon...
Des films d'auteur, oui.
Et donc, comment on passe d'un film d'auteur à prime time sur TF1?
C'est vrai que c'est un grand changement pour moi. J'aurais peut-être pas fait ce changement-là il y a quelques années encore, mais j'ai vu qu'il y avait une amélioration des programmes télé, des séries en France, comme si on était un peu au début d'un âge d'or, et que là, le rôle était tellement génial, et le casting, Emmanuel Seigné, Jean-Hugues Anglade, Pascual Dinca, Claire Kem... le producteur aussi qui a su me convaincre en me disant que ce serait vraiment un film et non pas un film télé, ni même un prime time, ni même pour TF1, mais vraiment un film à part entière, de genre, assez flippant. Voilà, donc il y avait beaucoup d'ingrédients.
Vous avez une mauvaise image de la télé de travailler pour la télé.
Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelques années, c'était assez compartimenté. Tu avais les acteurs qui faisaient comédies, les acteurs qui faisaient du cinéma d'auteur, des acteurs qui faisaient du théâtre, les autres qui faisaient la télé. Ça se mélangeait pas trop. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça s'ouvre un petit peu. Et beaucoup d'acteurs de cinéma, même comme moi ou comme d'autres de ma génération, viennent à la télé et jouent dans des séries de qualité.
Vous êtes content, quoi.
Très heureux.
Parce que les séries ont aussi beaucoup changé, sont devenues vraiment des véritables événements. Là, il s'agit quand même de l'adaptation d'une série britannique qui s'appelle The Fall. Qui est extrêmement forte. C'est une adaptation vraiment presque point pour point. Et apparemment, dans la préparation, Emmanuel Seigné, elle, a regardé la série The Fall. Vous avez refusé de vous voir.
J'avais pas envie de jouer ce rôle avec en tête un autre acteur. J'avais pas envie de répéter ce que lui faisait dans les scènes, ni même d'essayer de faire autre chose. J'avais envie d'être complètement libre et d'avoir l'impression de créer mon personnage. Et voilà.
Et vous l'avez regardé depuis ou pas?
Non, mais j'ai pas la télé, j'en ai pas beaucoup de séries. J'ai envie de. Peut-être un jour je le verrai, mais en tout cas, les gens qui connaissaient la série anglaise et qui voient la série française se rendent bien compte que même si c'est assez proche, l'optique, enfin la façon dont ça a été fait est très différente. Il y a beaucoup plus de rythme.
Il y a plus d'enquête en plus. L'enquête criminelle, quelque chose de plus palpitant,
de peut-être moins contemplatif.
En même temps, ce qu'il y a des remarques qui reviennent et qui disent, c'est un peu moins sombre. On a voulu, on a cédé un peu au prime TF1 et donc on est un peu plus. C'est un peu moins dur que la série originale.
ça reste très très dur pour un programme de ce calibre-là, mais je pense que dans la série anglaise, il y avait un côté un peu niche, un peu très lent, avec un côté comme ça, et nous, on a privilégié un peu l'action, l'enquête, c'est plus palpitant, plus accrocheur.
Oui, pour préciser, je dis quand même que dès les premières scènes, on vous voit ben, dans votre, à l'œuvre d'assassin.
Oui, parce qu'il se prend pour un artiste, en plus.
Oui, parce qu'il y a une mise en scène post-mortem.
C'est quand même épouvantable.
Absolument. Bah, c'est bien étudié sur la personnalité de certains serial killers, oui.
C'est jouissif de jouer ce genre de scène, de jouer des
meurtres. Absolument, oui.
Comment ça se passe? Comment on tourne une scène de meurtre, et comment réagit la comédienne qui est en face de vous?
Moi, j'ai fait une grosse préparation physique avant de commencer le tournage pour acquérir une certaine force, justement, que je n'ai pas forcément dans la vie. Mais là, à l'image, il fallait que ça se voit et qu'on se dise que ce personnage était inquiétant et menaçant. Donc, ça m'a facilité les choses parce que sur le moment, j'avais l'ascendant sur mes victimes assez facilement. Finalement, je me rendais compte de cette force et elle aussi. Du coup, ça peut aussi générer un petit peu d'appréhension et de peur chez elle. Et j'ai senti j'ai croisé deux, trois regards un peu paniqués par moments. Ouais.
Oui. Ah, donc vous avez voulu paniquer vos partenaires?
Bah, c'est du jeu, hein. On reste dans le mode du jeu, et puis il y a une équipe et tout ça. Et puis moi, j'ai pas de tendance sadique, donc il n'y avait aucun danger.
Vous êtes arrêté avant.
Absolument. Mais je veux dire, c'est important aussi.
Pour insoupçonnable, il n'a non plus apparemment aucune tendance sadique. Hein, donc,
apparemment.
Mais il va trop. Ouais. Non, mais je veux dire, ce qui est important, c'est aussi qu'on y croit, quoi. C'est qu'à l'image, ça sent vrai. Quoi.
Ouais.
Vous
êtes entraîné physiquement, j'ai lu,
oui, avec un coach,
rôle,
Fred Mompo, qui a déjà travaillé avec Danny Boone pour le film qui s'appelle Red, je crois. Et voilà, qui prend les acteurs en main longtemps avant le début du tournage et qui transforme leur corps.
Parce que vous aviez besoin de quoi? De prendre de l'épaisseur, de la force, de la puissance.
De dessiner aussi, parce que mon personnage, c'est quelqu'un de.
Oui, qui est très.
Très rigoureux, en fait. Voilà.
Et puis on le voit, il se faufile la nuit.
Il est très agile, et puis il fait lui-même de la musculation et tout ça. Donc quand il enlève son t-shirt, il fallait qu'on se dise, bah, effectivement, le type, c'est pas rigolo.
Alors qu'est-ce qu'il en reste?
Faites voir.
Une tablette de chocolat un peu fondue, mais.
Vous avez continué ou pas? Non, vous avez continué?
Légère. Non, disons que j'ai gardé un peu un truc de base pour pouvoir recommencer s'il fallait.
S'il y a une série 2, s'il y a une suite.
Enfin, non, peut-être pas une suite, mais même pour un autre rôle. J'ai appris à manger, en fait, c'est ça qui m'a changé un peu.
Ce qui n'était pas le cas, mais alors merci TF1.
Bah oui, j'ai appris à manger TF1 grâce à TF1. Et merci Fred Mompo.
C'est un rôle très complet parce que vous jouez plusieurs personnages. En fait, quand on joue un serial killer et quelqu'un qui dissimule, on joue quelqu'un de sympa, quelqu'un de sadique.
En plus, comme le spectateur sait depuis le début que c'est moi le criminel. C'était agréable de jouer aussi en se disant bah tiens, le spectateur en sait long sur moi, donc quand je mens, il sait aussi que je mens, et ça donnait lieu aussi à plein d'ambiguïtés, à plein de tentatives de ma part pour m'amuser avec ces situations-là qui étaient très très bien écrites par Virginie Braque.
Je trouve les rapports très troublants avec vos enfants dans le téléfilm, enfin dans la série, et ça vous a interpellé. Je sais que vous avez une fille vous-même, et on ne sait pas si votre fille dans la série, c'est plus ou moins. Voilà, c'est quand même extrêmement troublant, je trouve.
Absolument, oui. Bah, y a beaucoup de choses troublantes. Et puis, plus la série se développe, plus on rentre dans le trouble. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est vrai que le personnage lui-même fait un trajet. Enfin, je ne peux pas en dire trop long. En tout cas, on comprend son rapport aux enfants petit à petit. Et c'est quelqu'un qui ne toucherait jamais un enfant. Au contraire, il est obsédé par les enfants et la pureté. Et lui-même est un peu resté bloqué à un stade enfantin, quoi.
C'est une série qui a très bien commencé. Rémi, c'est l'homme des chiffres. Donc, la semaine dernière, c'est quoi? Plus de 5 millions de téléspectateurs.
Oui, 5 226 000 téléspectateurs, 24,3% de part de marché. C'est un excellent démarrage pour une série. Tout ce qui est au-dessus de 5 millions, c'est quand même exceptionnel. Hein, parce qu'aujourd'hui, on voit que même hier, un très bon score était aux alentours de 4 millions. Donc, c'est un très bon démarrage.
Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que le jour où j'ai dit à ma fille que j'allais faire une série télé, elle était très contente. Parce qu'elle s'est dit, je vais pouvoir regarder, parce qu'elle est très série. Ouais. Moi, qui suis d'une autre génération, moins, j'ai encore tendance à aller au cinéma et tout ça, mais je vois bien qu'aujourd'hui, ça prend une place énorme dans la vie des jeunes.
C'est bizarre, est-ce qu'elle les regarde à la télé ou de façon plutôt sur son iPhone?
Plutôt sur son iPhone, sur les ordinateur iPads, en replay. Sur les iPads, c'est pas une peur de la télé, c'est juste que je lis, en fait. Ouais. C'est ça qui me plaît.
Vous êtes un extraterrestre aujourd'hui. Non, il y a de moins en moins de gens qui
lisent. Peut-être un jour, oui.
Donc vous ne la regardez pas du tout. Vous n'avez pas de télé.
J'ai pas réussi à faire marcher ma box, là.
Ah bon?
Donc je ne sais pas comment
ça
marche.
Vous avez quand même une box. Donc vous ne l'allumez jamais?
Non.
Non, c'est incroyable. Vous regardez pas. Alors moi, ça me fascine.
T'as vu mon téléphone?
Vous regardez votre téléphone.
J'ai un petit téléphone qui ne fait que téléphone.
Un Nokia.
Texto.
Voilà. Je suis un peu allergique.
Ça se vend plus, ça.
Si, à côté de chez moi, vers Barbès, ils en vendent.
Ça se vend,
Comment vous lisez vos mails?
Je lis mes mails de temps en temps chez moi quand je...
Il y a quand même un ordinateur. Bah, ça va,
je supporte pas ces trucs-là. Je vois tout le monde qui est plongé là-dedans et ça.
Mais vous ratez plein de choses.
Non.
Ou pas. C'est possible. Alors vous êtes musicien également. Ouais. Je voulais qu'on en dise quelques mots. Vous avez, vous faites partie d'un groupe qui s'appelle les Black Minou, c'est ça?
Black Minou avec mon frère. C'est Yarol et les Black Minou. Moi, je suis un des Black Minou. Yarol, c'est mon frère, guitariste, FFF, Johnny Hallyday. Et puis ce groupe-là, l'album sort en janvier. C'est du rock pur et dur, mais très bien produit.
Ouais.
Et en concert, c'est génial. Il a plusieurs dates qui arrivent là. Et voilà, c'est un grand musicien.
Et puis vous aussi, puisque vous êtes. C'est un grand musicien, Yarol.
Ouais, Yarol, c'est vraiment impressionnant. Il faut le voir au moins une fois jouer de la guitare en live. C'est...
Ouais. Et vous êtes sur scène avec Benjamin Biolay.
Bah, à partir de novembre, on fait une grosse tournée jusqu'en février, une tournée qui se clôturera le 19 février à l'Olympia. Et voilà, c'est un show un peu entre théâtre, cinéma, musique, on fait des reprises, des chansons de Benjamin, des compositions plus récentes, je joue de la batterie, de la guitare, lui aussi, de la trompette, du piano, voilà, il y a un côté Rat Pack.
Ouais. Vous avez hésité un moment entre les deux, ou on n'est pas obligé de choisir
Moi, en tant que comédien, la chance qu'on a, c'est qu'on a quand même pas mal de temps libre. Bon, évidemment, il y a des périodes où le temps libre, ça devient une angoisse, parce qu'on se demande quand est-ce que ça va arriver, mais entre deux tournages, on a quand même plusieurs mois, souvent, et même pendant un tournage, on a quand même beaucoup de temps à attendre, donc moi, je préfère jouer de la guitare ou faire d'autres choses que juste
en 2015, vous avez tourné, je suis désolé, moi, je suis le côté people de l'histoire, vous avez tourné avec Angelina Jolie et Brad Pitt, alors ?
Absolument. Ah ben, je les ai adorés, c'était un couple magique.
C'est vrai ?
Ah ouais, vraiment, ouais. Deux personnages sublimement beaux, charismatiques, mais aussi très, très doux, très gentils, très investis dans leur travail. Et puis un couple qu'on sentait déjà un peu en train de
se séparer.
Puis le film parle de ça. D'ailleurs, je trouve que c'est un très, très beau film sur la fin d'un couple, la fin d'une histoire d'amour. Très honnête, très, très intense. Donc je recommande Vue sur mer.
Et ils travaillent différemment, les comédiens américains, par rapport à vous ou pas ? Est-ce que vous avez vu des différences ?
J'ai déjà fait plusieurs films avec des Américains. Déjà, les heures de tournage sont beaucoup plus longues. C'est 12 heures minimum. Après, c'est l'acteur qui est plus responsable de son rôle. Il y a moins d'échanges avec le metteur en scène quand on a été choisi, casté et qu'on a éventuellement fait des lectures avant. Quand on arrive sur le tournage, le metteur en scène attend vraiment de vous que vous délivriez votre performance. Alors qu'en France, on a toujours un dialogue.
On est beaucoup plus dirigé
en France.
Est-ce que vous avez eu d'autres propositions pour la télévision depuis Insoupçonnable ? Mais
avant, disons qu'aujourd'hui, dans la vie d'un comédien, les séries ont changé aussi, c'est qu'il y a énormément de rôles. Comme c'est des séries qui durent des fois 10 saisons, enfin plusieurs saisons, puis 10 épisodes par saison, 8, ça amène beaucoup de travail pour les acteurs. Ouais. Donc là, c'est vrai que ça fait quelques années que je sais qu'on reçoit beaucoup de rôles.
Beaucoup de rôles, et c'est vrai que les séries ont beaucoup changé. Avant, il y avait quelque chose d'assez formaté. J'ai lu une interview de la scénariste et de la réalisatrice.
Bah déjà, imaginez un film.
Du réalisateur qui disait que TF1 avait beaucoup évolué dans les schémas des personnages.
Bah, c'est ce que j'ai aimé aussi en faisant cette série-là, puis le fait que ça a été noté par la presse, c'est que c'est quelque chose d'assez exceptionnel.
Il y a même eu un papier dans les Inrecuptibles, je crois. C'est ce qui est absolument incroyable. Non, pas. Non, votre attaché de presse me dit
non. Ça serait possible. Mais... Non, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et je pense que les gens le remarquent.
Oui. Bah, écoutez, on va vous regarder en tout cas. Ça dure, Rémi, jusqu'à 10 épisodes. Mmh.
Et diffusé par Valtz de deux épisodes,
donc 5 semaines, si on compte bien.
Ne me regardez pas.
Donc après 6 semaines, parce qu'entre-temps, il y a un match de foot qui
passe. Exactement.
Melville Poupeau à vos côtés.
Francis qui ? Islande.
Francis. Le foot non plus, c'est pas votre truc. Donc Emmanuel Seigné à vos côtés en flic glacial, un peu Hitchcockienne, avec une relation entre vous qui.
Il y a un jeu de miroir pendant toute la série. On suit ces deux parcours, ce jeu du chat et de la souris. Et voilà, Emmanuel est une actrice géniale qui a un rôle qu'elle défend à merveille.
Merci beaucoup Melville Poupeau. Donc Insoupçonnable ce soir. Vous êtes sympa. C'était Insoupçonnable.
Merci.
Merci beaucoup d'être venu. Donc Insoupçonnable, 20h50, plutôt 21h, sur TF1 ce soir. 21h10 même.
Le début de l'épisode.
Non, faut pas rater, surtout pas. Merci à vous. On se retrouve nous dans un instant pour ce qu'on regarde à la télé ce soir.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Alors, 30 secondes pour convaincre, Gilles, je vais vous laisser faire.
Ah bah oui, alors, les 30 secondes pour convaincre, cette fois-ci, on va s'intéresser à l'équipe TV, enfin qui a changé de nom, ça s'appelle l'équipe La Chaîne maintenant. Tous les soirs, dans l'émission de l'équipe d'Estelle, vous retrouvez une chronique, La Petite Lucarne de Pierre-Antoine Damecourt, qui donne une vision décalée du sport avec des vidéos savoureuses. Alors Valérie, faut-il regarder cette rubrique? On a appelé Pierre-Antoine Damécourt pour nous convaincre de regarder cette séquence. On lui a donné 30 secondes.
Bonjour à tous, alors je vais vous donner 6 bonnes raisons de regarder La Petite Lucarne. La première, c'est parce que franchement, à 17h45, j'ai fait le tour et il n'y a vraiment rien à la télé. La deuxième, c'est parce qu'à défaut de faire du sport, en regarder, bah, c'est déjà pas mal. La troisième, parce qu'il y a Estelle Denis dedans, évidemment, et qu'elle est quand même super cool. La quatrième, parce que plus il y a de gens qui regardent La Petite Lucarne, plus ça fait d'argent pour l'association Une Ferrari pour Pierre-Antoine Damécourt. La cinquième, parce que promis juré, il n'y a pas de glyphosate à l'intérieur, j'ai vérifié. Et enfin, la sixième, c'est prouvé, La Petite Lucarne, c'est mieux que 5 fruits et légumes par jour. Voilà.
Eh ben, c'est convaincant, bravo. Merci. Ben
voilà. Il a bien travaillé.
Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder ce soir à la télévision, Rémi?
Il y a... Écoutez, sur TF1,
Insoupçonnable, évidemment.
Sur France 2, c'est Envoyé spécial.
Qui est consacré aux retraités.
Oui, et puis également aux éoliennes.
Bon, alors, il voilà. y a de la concurrence ce soir. Les Lyonnais...
Les Lyonnais, le film, qui est un bon film policier sur France 3. Sur M6, Cauchemar en cuisine. On vient d'en parler. Voilà, après, Taxi Killing... 2 sur TMC.
Oui, Killing Eve sur Canal+. Je vous conseille cette série. Moi, j'ai déjà tout regardé et j'avoue que je suis totalement fan.
Pronostic,
je sais pas.
C'est simple. Hein, insoupçonnable.
Insoupçonnable, très largement.
Oui, ça va cartonner.
Et deuxième Lyonnais... position, là, ça va se jouer, je pense...
Entre les Lyonnais et Cauchemar en cuisine.
Moi, je vais vous faire mon alerte TNT, comme hier. Oui. Je vous ai fait une alerte avec Blanche. Je vous fais une alerte sur Taxi 2, moi.
Possible.
Qui est sur TMC. Alors, je pense que Taxi a bien fonctionné la semaine dernière, qui était à plus d'un million d'euros, Rémi, si je me souviens bien.
Oui, tout à fait.
De ce que vous aviez dit. Et je pense que sur TMC, Taxi 2 peut bien fonctionner. Ça peut être une belle soirée pour le groupe TF1.
D'accord, mais en deuxième position...
Moi, je dis les Lyonnais.
Moi, je dis Cauchemar.
Moi, je dis Cauchemar en cuisine.
Eh bien, on verra demain. Voilà.
C'est bien de rejoindre le camp de la gang, Rémi.
Et Insoupçonnable.
Je vous ai dit Cauchemar en cuisine juste avant vous.
Et Insoupçonnable sur TF1. Merci à Melville Poupeau. On se retrouve, nous, dans quelques instants pour commenter l'actualité. À tout de suite sur Sud Radio.